quelques cochons. Mon pote rabaisse personne pour se mettre en valeur. C'est mon reflet, nous briser, c'est risquer 7 ans de malheur. Mon pote n'est pas une bête en chaleur. Et je peux dormir tranquille le soir où je lui présente ma sœur. Fidèle en amitié, si j'ai plus les pieds sur terre, mon pote me rappelle les lois de la gravité. Toujours prêt, toujours le premier à appliquer.
Il est 6h à Paris, 5h en temps universel. Merci d'écouter RFI.
Andréane Mellard.
Et bonjour Gaëtan Plenaire.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Reportage à Dakar dès le début de ce journal.
À l'université Cheikh Diop, après une nouvelle journée de tension hier sur fond de mouvement de contestation, un étudiant aurait perdu la vie. C'était attendu aux États-Unis. La complice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, a gardé le silence hier face à une commission de la Chambre américaine des représentants. Elle veut bien parler à l'avenir, mais seulement si elle est graciée. Dans ce journal également, une vague d'arrestations dans les milieux politiques réformateurs en Iran. Un ouvrage publié aujourd'hui en France par la Grande Mosquée de Paris pour tenter de mieux expliquer l'islam à l'heure des sociétés laïques. Et puis après leur sacre en relais mixte, les biathlètes français rêvent encore d'or au JO de Milan-Cortina en Israël à la fin de cette édition.
Un mort hier à l'université Charanta Diop de Dakar.
Un étudiant dentiste en deuxième année, ça a été confirmé par plusieurs sources alors que l'établissement est traversé par un mouvement de contestation. En cause le retard dans le versement des bourses, après de violents affrontements, vendredi, les restaurants universitaires ont repris du service hier matin, mais les forces de l'ordre sont intervenues à l'intérieur du campus où un incendie s'est déclaré dans une résidence. Certains jeunes ont dû fuir par les fenêtres pour échapper aux flammes. Des organisations étudiantes parlent de plus d'une centaines de blessés et de plusieurs dizaines d'arrestations aussi. Reportage de notre correspondante Juliette Dubois.
Dès le matin, des véhicules blindés pénètrent dans le campus social. Dans le ciel, des traînées de fumée blanche de gaz lacrymogène. Sur des vidéos, on voit les couloirs des résidences universitaires complètement enfumés. Plusieurs étudiants sont blessés lors d'affrontements. À l'intérieur du campus, l'infirmerie est débordée. Sherata Bania, étudiant en médecine, participe à la prise en charge des blessés.
Il y a trop de blessés. D'autres qui ont des mains cassées et d'autres aussi à qui on les a frappés dans les yeux. C'est un peu débordant, quoi.
Face à la situation, de nombreux étudiants préfèrent quitter le campus, sac et valise à la main. Fatimata Diop, étudiante en mathématiques, rentre chez elle à la pièce, les larmes aux yeux.
On rentre parce que là, la situation commence à dégénérer. On a fermé la restauration depuis 3 jours et aujourd'hui, on a bombardé avec des lacrymogènes. Moi, je suis asthmatique, je ne pouvais pas rester là-bas. C'est la première fois dans ma vie.
Au cœur de la crispation, le retard dans le versement de bourses. Pour protester, des étudiants avaient prévu d'organiser des journées sans ticket, c'est-à-dire sans payer les repas aux restaurants universitaires. Mais les forces de l'ordre sont intervenues. Ibrahim Hassen, étudiant en environnement, est déçu.
On ne comprend plus. Réclamer notre droit, c'est de percevoir nos bourses. C'est devenu une menace à notre sécurité. Le mouvement de mort des étudiants n'est pas une excuse pour les forces de défense et de sécurité de pénétrer le campus social.
La contestation ne se limite plus à Dakar. Après Saint-Louis et Thiès, ce lundi, l'université de Ziguinchor a annoncé à son tour la fermeture de ses restaurants. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Une démocratie qui condamne un mot aujourd'hui prend le risque demain de condamner le silence de tous. Réaction sur notre antenne de maître Mamadou Ismaïla Konaté. Il fait partie du collectif des avocats de Moussa Mara, l'ex-premier ministre malien. Hier, la cour d'appel du pays a confirmé la peine qui avait été prononcée à son encontre en première instance. 2 ans de prison, dont 1 année ferme et une amende de 500 000 francs CFA pour atteinte au crédit de l'État et opposition à l'autorité légitime. Son tort, un message publié sur les réseaux sociaux dans lequel il disait vouloir se battre par tous les moyens pour, je cite, que le soleil succède à la nuit.
Au Royaume-Uni, Keir Starmer le dit, il n'a pas l'intention de partir.
Et ce, malgré les appels de l'opposition et même du chef du parti travailliste écossais. Eux veulent que le Premier ministre démissionne, mais les poids lourds du gouvernement britannique le soutiennent. La crise de confiance reste grande quand même. Fin 2024, il avait nommé en tant qu'ambassadeur à Washington un ami du pédocriminel Jeffrey Epstein, des liens dont Keir Starmer avait connaissance.
Et il n'y a pas qu'au Royaume-Uni, Gaëtan, que cette affaire provoque des remous depuis la publication par la justice américaine de plusieurs millions de documents compromettants.
En Slovaquie, le conseiller à la sécurité nationale a dû démissionner, tandis qu'en Norvège, c'est la future reine qui est dans la tourmente pour ses liens avec le financier américain. Jeffrey Epstein, accusé d'avoir exploité sexuellement plus d'un millier de jeunes femmes, certaines mineures. Son procès n'a jamais pu avoir lieu. Il a été retrouvé pendu dans sa cellule en 2019. Alors reste celle qui est considérée comme sa principale complice, Ghislaine Maxwell. Son audience hier au congrès américain était particulièrement attendue, mais elle a gardé le silence comme le lui permettait le 5e amendement de la Constitution. Elle n'écarte pas l'idée de parler, Vincent Souriau, mais à une condition, et pas n'importe laquelle, une grâce présidentielle.
Seul son avocat s'est exprimé. David Oscar Marcus explique que Ghislaine Maxwell doit garder le silence car, selon lui, la condamnation de sa cliente en 2022 à 20 ans de prison est entachée d'irrégularités. Et si, dit-il, le Congrès et le peuple américain veulent vraiment entendre la vérité sans filtre à propos de ce qu'il s'est passé, le chemin est très clair. Ghislaine Maxwell est prête à parler à condition que Donald Trump lui offre une grâce présidentielle. David Oscar Marcus en profite pour entretenir le suspense et faire monter les enchères. C'est la seule, poursuit-il, qui puisse livrer un récit complet. Par exemple, ajoute l'avocat de Ghislaine Maxwell, les présidents Trump et Clinton sont innocents, ils n'ont rien fait. Il n'y a que Madame Maxwell qui puisse en expliquer les raisons et la population américaine a mérité cette explication. Vincent Souriau, Washington RFI.
Les États-Unis qui menacent toujours de lancer une opération militaire en Iran.
Les pourparlers de la fin de semaine dernière à Oman n'ont pas permis de réellement calmer le jeu. Alors c'est dans ce contexte que Téhéran s'apprête à célébrer l'anniversaire de la révolution islamique. Le tout aussi quelques semaines après le mouvement de contestation qui a agité le pays, mouvement réprimé dans le sang avec des milliers de morts. Et cette répression interne, elle se poursuit avec notamment Nicolas Falaise, une vague d'arrestations.
Les personnalités politiques arrêtées ces derniers jours appartiennent au camp réformateur, une mouvance tolérée par la République islamique. Les réformateurs ont soutenu l'actuel président iranien Pezeshkian, mais ils ont ensuite émis des critiques ces dernières semaines lorsque la contestation populaire a éclaté avant d'être réprimée. Ardeshir Amir Arjomand connaît bien les personnes arrêtées. Lui-même est un réformateur iranien actif de son exil en France. Selon lui, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a décidé de faire taire toute voix critique.
Je pense que M. Khamenei a une ligne rouge. C'est la formation de l'opposition nationale à l'intérieur de l'Iran, c'est-à-dire une opposition qui rejette la dictature, en même temps l'intervention étrangère, et est favorable à une transition démocratique pacifique. Pour Khamenei, c'est une ligne rouge. Il ne permet pas la constitution de cette opposition à l'intérieur de l'Iran.
Selon des médias officiels iraniens, les arrestations dans le camp réformateur ont eu lieu après enquête sur des soutiens à Israël et aux États-Unis, les deux grands ennemis de la République islamique.
Et puis je rappelle que la prix Nobel de la paix 2023, Narges Mohammadi, a elle été à nouveau condamnée ce week-end, cette fois à 6 ans de prison. La France appelle à sa libération et dit regretter que l'Iran ait à nouveau fait le choix de la répression et de l'intimidation. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se dit lui gravement préoccupé par une décision qui, je le cite, compromet la perspective d'une solution à deux États. Il dénonce en fait les nouvelles mesures israéliennes annoncées ce week-end visant à contrôler davantage encore la Cisjordanie occupée. Et parmi ces mesures, la facilitation de l'achat de terres par les colons israéliens ainsi que celle de l'obtention de permis de construire dans le sud du territoire. Les résultats officiels sont tombés au Japon après les élections législatives anticipées de dimanche, convoquées par la première ministre Sané Takaichi. Elle a réussi son pari. Son parti, le PLD, le Parti libéral démocrate, a remporté 315 sièges à la chambre basse du Parlement. Ça lui assure une majorité des deux tiers. C'est le meilleur résultat de son histoire.
Le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, est à Yerevan hier soir.
Oui, la capitale arménienne où il a signé un accord sur le nucléaire civil, concluant aussi l'achat de drones américains et de puces électroniques. Une visite également pour soutenir les récents efforts de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les précisions de notre correspondant régional Théo Bourgeois-Rigons.
Il n'y avait pas eu de haut dignitaire américain en Arménie depuis 2008. La visite de J.D. Vance est le signe d'un intérêt renouvelé des États-Unis pour cette petite région du Caucase, longtemps chasse gardée de la Russie. 40% des investissements directs étrangers dans le pays sont d'ailleurs d'origine russe. Pour Yerevan, qui cherche à prendre ses distances avec Moscou, l'accord signé sur le nucléaire est stratégique, surtout à l'heure où le pays doit bientôt remplacer sa centrale nucléaire, aujourd'hui sous contrôle de l'entreprise russe Rosatom. Quant à l'achat de drones, s'il ne corrige pas le déséquilibre militaire arménien face à l'Azerbaïdjan, il envoie le message que les États-Unis ne laisseront pas la situation sécuritaire se dégrader.
La meilleure façon de garantir la paix, c'est de mettre en place une véritable capacité de dissuasion. Pour ce faire, il faut disposer des meilleures technologies militaires au monde. Les États-Unis les ont.
Washington fait tout pour gagner en influence dans une région en plein bouleversement géopolitique, quitte à s'inventer artisans de la paix et à en tirer quelques bénéfices. En août 2025, Erevan et Bakou signaient un accord préliminaire de paix sous l'égide de Donald Trump, mettant fin à 30 ans de guerre. L'accord prévoit la création d'un nouveau corridor économique baptisé Route de Trump, qui reliera Bakou à la Turquie en passant par le territoire arménien. Hier, J.D. Vance a confirmé la création d'une entreprise pour lever des financements, contrôlée aux trois quarts par Washington. Théo Bourgeois-Rigons, Tbilissi, RFI.
Déconstruire les discours haineux et communautaires, c'est là l'objectif d'un ouvrage inédit publié aujourd'hui en France.
Par la Grande Mosquée de Paris, qui veut ainsi offrir des repères permettant d'accorder la pratique musulmane avec les sociétés laïques, dans un pays où le sujet fait régulièrement débat. Les explications de Baptiste Coulon.
C'est le fruit du travail de deux commissions, l'une religieuse composée d'imams, l'autre civile, à laquelle ont été associées plusieurs personnalités. Il en ressort une publication de 900 pages qui s'adresse tout autant aux musulmans désireux de mieux comprendre leur foi qu'aux non-musulmans curieux de découvrir cette religion. L'ouvrage, qui se veut pédagogique, propose ainsi un glossaire dans lequel 200 notions y sont abordées. Le texte rappelle par exemple que le port ou non du voile relève d'un choix personnel qui doit être respecté, que le mariage civil est préalable au mariage religieux, que l'on peut être un bon croyant même en cas de rupture du jeûne sur son lieu de travail par exemple, dès lors que cette rupture est compensée ultérieurement. Si certaines notions répondent à des interrogations de la vie quotidienne, d'autres visent à accorder la pratique de l'islam avec le cadre d'une France républicaine et laïque. L'ouvrage va être décliné en vidéo, précise le grand recteur de la mosquée de Paris. Objectif, atteindre les jeunes musulmans plus enclins à s'éduquer via les réseaux sociaux.
Une précision de Baptiste Coulon.
Elle dit ne rien regretter. La skieuse américaine Lindsay Vonn donne de ses nouvelles après sa chute impressionnante samedi au JO d'hiver de Milan-Cortina.
Elle souffre d'une fracture complexe du tibia gauche. Elle souffre aussi d'une rupture des ligaments croisés du genou à la même jambe, mais ça, elle le savait déjà au moment de prendre le départ de la descente. Un risque qu'elle assume. J'ai essayé, j'ai rêvé, j'ai osé, écrit-elle sur Instagram.
Eux osent croire au doublé.
Après avoir remporté le relais mixte de biathlon dimanche, les Français s'attaquent aux épreuves individuelles. Particulièrement attendu aujourd'hui sur le 20 km, Éric Perrault, l'actuel leader du classement général de la Coupe du Monde, Christophe Dirémian.
Qu'il paraît déjà loin, l'Éric Perrault, simple remplaçant aux Jeux de Pékin. Désormais, le Savoyard de 24 ans, de père français et de mère norvégienne, tous deux anciens biathlètes, est une référence du circuit, respecté pour ses 4 médailles, dont 2 en or aux Mondiaux 2025, et pour son actuel dossard jaune en Coupe du Monde, et qu'il y ait de l'attente autour de lui ne le gêne absolument pas.
Il y a de la pression, bien évidemment, mais tant mieux. J'aime aussi être un petit peu sous pression, je trouve que c'est ce qui rend ces événements vraiment palpitants, donc voilà, je suis impatient de pouvoir mettre ça en place et de voir si j'ai les épaules, parce qu'il y a toujours un peu de doute, mais voilà, impatient de pouvoir vivre ce moment-là.
Comme ses illustres aînés, Martin Fourcade et Quentin Fillon-Maillet, Éric Perrault a bien l'intention de cumuler médaille d'or olympique individuelle et gros globe de cristal de la saison hivernale. Simon Fourcade, l'entraîneur du groupe masculin, l'en croit parfaitement capable.
S'il y a quelqu'un qui peut assumer ce rôle parce qu'il a envie de ça, c'est Éric. Et en ce sens, je le trouve pas plus téméraire, on va dire, que ce qu'il peut l'être à vouloir essayer de faire plus. Maintenant, c'est sûr que lui, dans son ambition de vouloir aller chercher et le globe et des médailles au jeu, oui, il m'impressionne et on voit qu'il arrive à mettre les choses en œuvre pas à pas depuis le début de saison.
Première concrétisation dans ces jeux, le titre de dimanche en relais mixte, il avait bien lancé le quatuor en bon leader, ambitieux et confiant. Christophe Diremzian, Anter Selva, RFI.
Et pour cette épreuve masculine de biathlon, un individuel de 20 km, le départ sera donné à 12h30 en temps universel.
Ces jeux d'hiver au cœur de nos rendez-vous ce matin avec Antoine Grenier, le journal des sports à suivre dans une demi-heure. Merci Gaëtan Plenet. Et à vous qui nous écoutez en direct à la radio ou sur notre chaîne YouTube, bonjour, bienvenue. J'espère que vous êtes bien réveillés, bien installés pour notre tour du monde de l'actualité jusqu'à 9h au programme des chroniques, des invités, des reportages. On vous emmène ce matin dans l'est de la RDC, toujours en proie aux violences dans le territoire de Fizi notamment, où le village de Namisha se trouve à 50 km des lignes de front. Les habitants sont inquiets.
Nous entendons les bombes là-bas dans les collines sur Ougezi et sur Point Zéro. On voit bien que la situation peut devenir très grave. On a tous peur. Si les combat se rapproche, on devra fuir et aller en brousse et on attendra la paix.
Deuxième épisode de notre série de reportages ce matin dans le territoire de Fizi. Rendez-vous à 8h45 heure de Paris, l'est de la RDC, au cœur de la rencontre hier entre Félix Tshisekedi et João Lourenço. On en parle dans nos journaux ce matin. L'actualité africaine également avec ces tensions à l'université. l'université Charente à Diop de Dakar. Un mort hier en cause, le retard dans le versement des bourses. On en parle ce matin aussi. On se penche également sur ces mesures annoncées ces derniers jours par Israël, renforçant le contrôle de l'État hébreu sur la Cisjordanie. Les réactions pleuvent. Antonio Guterres se dit gravement préoccupé. Et pour les Palestiniens, l'inquiétude se mêle au désespoir.
Israël nous a fait perdre notre manière de vivre, notre héritage, notre culture. En Cisjordanie occupée, on est en train de tout perdre.
Reportage à écouter à 8h. On parle aussi ce matin de l'affaire Epstein et les réactions que suscitent les dernières révélations, notamment au Royaume-Uni, Cuba également, où tout marche au ralenti, voire pas du tout, en raison de l'étranglement énergétique imposé par les États-Unis. Et puis, on évoque aussi ce matin, bien sûr, l'Ukraine et la Russie. RFI vous propose donc...
La vie c'est épatant. Tout doucement. Tout doucement. Comme ça. La vie je la comprends. N'allez jamais trop vite. Vous obéissez tout le temps. Attention à la dynamite. Prenez garde au volcan, à ces jeunes énervés qui ne savent pas aller. Doucement comme ça, enflammant gentiment. N'allez jamais trop vite en amour simplement pour revoir de la réussite. Soyez très très prudent, l'amour ne viendra.
Défaut, le mal veille sans un gramme de sagesse. Qu'est-ce que je fais pour manquer de tout, me venger de vous rappeler pour ne pensais que je mangeais le gouffre. J'étais là, planté debout, j'étais mal planqué. J'étais là, prêt de ramper un genou quand j'étais taille. Des baffes, j'en fous très détail. Y'a des tas de bouche à bouche, B, c'est la foudre de l'esclave. Vous écoutez mes braves, vous faites tourner les watts, les casser un son à shooter les oies. Et vous, vous en doutiez, j'ai tout fait pour lutter contre tout gouffre. Y'a nos contrôles de foot, bouger, su. J'ai su ce dont je souffrais. J'ai tout à l'heure de tourner dur. Toute blessure que j'ai bouffé. Puis c'est sûr, du sang des prophètes. Couché jusqu'à trop être faible devant un faux frère. À pardonner faux. Entre compères, veillé à guetter tard. Le veto dans le ghetto est une conspète. Ce type est mal dans sa peau, dans sa tête. Il en a ras le bol, paraît que son monde est un test. À une seconde pour un zeste de trop ou un geste faux à défaut. Le mal veille sans un gramme de sagesse. Ce type est mal dans sa peau, dans sa tête. Il en a ras le bol, paraît que son monde est un test. À une seconde pour un zeste de trop ou un geste faux à défaut. Le mal veille sans un gramme de sagesse. Un pour tous et tous pour un. Tiens pour boulot, ma vie tient. On est tous sur un surin et ça fait mal. Putain, tu chiales, tu t'inspires dans tout un spliff pour un sale putain. Tiens, t'as le bonjour, tu juges bien. Où y'a plus un purin, c'est sûr bien. Où la foi, tu endures l'impurne. C'est facile à voir et vite avoir déçu devant les flics. Un pavoir quand on se les vide, on est pur. Chacun vit sa place et suis savoir si je m'assois ou vise la loi. Je suis à chaque fois, vise ma patte, fais gise ma flamme, aiguise ma lame. J'évite la bague, ta faux pathétique, ma cam, le vice prend place. J'sais qui le tente, va lui dire qu'il nous manquera. Et puis qui pour lui rendre grâce, et la dalle où on te remplace. Moi j'ai ma clique et ma gamine, sans quoi c'est un champ de toile. Ce type est mal dans sa peau, dans sa tête. Il en a ras le bol, paraît que son monde est un test. À une seconde pour un zeste de trop ou un geste faux à défaut. Le mal veille sans un gramme de sagesse. Ce type est mal dans sa peau, dans sa tête. Il en a ras le bol, paraît que son monde est un test. À une seconde pour un zeste de trop ou un geste faux à défaut. Le mal veille sans un gramme de sagesse.
I was only supposed to be gone from 8 miles in. 2 hours would start to end, and then I would be back home again. I lost track of the time, I was having a fall. Didn't you worry about me at all? And I was only supposed to be gone from 8 miles in. The clock had rolled around to 11:30. I put down my glass, pick up my phone, and I could tell you were getting dirty. I was about to reply, but my battery died. The clock struck four and I tried to find my way home. The night bus stops, the daybreak starts to rear its ugly head. I put my keys in the door, I'm as quiet as a mouse. I wipe my shoes on the mat and I'm back in the house. When it's upside down, I'm the top's head, I was coming home. Well, it was in.
It was in.
Well, it was in.
It was in.
I was only supposed to be gone from 8 miles in. I lost track of the time, I was having a ball. Didn't need to worry about me at all. When it's so down, I'm the top's head, I was coming home. When I said I was coming home. When I said I was coming home.
Vous écoutez Prince Actif.
À quel moment on passe d'une musique mal faite à une musique bien faite, ça je peux le discerner. Mais de la musique bien faite au chef-d'œuvre, ça vous ne pouvez pas.
Principe actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9.
So why, I, so why, so why, why, so why, I, so why. So
lahi lahi la mama dara suru lahi kone bena kumasa nebe sara la muzola dununya muzola kula mogelema ibe kono ta segena kidemolo segena hakika no la mo abada kataga la mola ibodi la mola kika no tonodun abada
10 feet tall, you wanna keep